le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous écoutez le service protestant du dimanche matin sur France Culture. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Christine Perry, prédicatrice pour l'Église protestante unie de France en région parisienne. L'homme a un destin qui entre dans le projet éternel de Dieu. Au quotidien, nous rencontrons de nombreux obstacles matériels. Il est difficile d'imaginer que l'homme a en lui une part d'infini. Pourtant, c'est ce que nous dit Paul dans les premiers versets de sa lettre aux Éphésiens. À partir de ce texte, Marie-Christine Perry vous propose la méditation de ce dimanche matin.
Bonjour à vous tous fidèles auditeurs qui mettez quelques précieuses minutes de votre dimanche à part pour écouter ce service protestant. Vous aussi, qui écoutez peut-être plus distraitement toutes les émissions religieuses de France Culture, parce que vous êtes curieux de connaître divers courants de pensée. Et vous aussi, qui nous rejoignez par hasard. J'espère que vous resterez en notre compagnie. Pourquoi se préoccuper de religion ou de philosophie? Certains diront peut-être qu'il y a autre chose à faire. Cependant, depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, les hommes ont cherché à comprendre le sens de la vie. Pour ma part, et c'est peut-être votre cas, je me suis posé la question du pourquoi de l'existence depuis mon plus jeune âge. Naître, se marier, travailler, avoir des enfants et puis des petits-enfants, vieillir, et mourir. Était-ce vraiment le pourquoi de la vie humaine? Cette perspective ne me semblait pas vraiment exaltante. La vie n'était-elle que cela? Aujourd'hui, je sais qu'il n'en est rien. Je l'ai découvert dans ces années 70, où la jeunesse s'ouvrait à de nouvelles idéologies, métaphysiques, orientalistes ou autres. J'y ai cherché des réponses en vain. Et puis, je me suis plongé dans la Bible. Et j'y ai découvert tant de merveilleuses révélations que je ne l'ai pas lâché depuis. Et ce matin, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert dans le texte du Nouveau Testament qui nous est proposé dans nos églises pour ce dimanche. À vrai dire, lorsque j'ai relu ce passage biblique, j'ai à nouveau été touché par sa profondeur. Bien qu'il soit quelque peu ardu, je l'ai choisi pour notre méditation de ce matin. Et j'espère que vous y trouverez toute la richesse que j'y ai découverte. C'est l'extrait d'une lettre que Paul de Tarse aurait écrite aux chrétiens de la ville d'Éphèse, voici plus de 2000 ans. Les experts discutent pour savoir si les Éphésiens étaient bien les destinataires, si Paul était bien l'auteur. Je ne suis pas experte et j'accepte ce que le premier verset de cette lettre nous dit. Paul, envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ. Et je reçois ce message comme m'étant adressé de la part de Dieu. Je prie qu'il en soit de même pour chacun de vous. Ce texte est une très longue phrase qui s'étire sur 11 versets au chapitre 1er, versets 3 à 14 de cette lettre aux Éphésiens. Nous le parcourrons tout au long de ce moment de partage. Avant de poursuivre, je vous invite à une courte prière. Seigneur Dieu, toi qui nous permets d'entendre aujourd'hui cette parole que tu inspiras à ton disciple Paul, accorde-nous de recevoir ce que tu veux nous dire, le message particulier que tu as pour chacun de nous. Ouvre nos esprits et notre cœur, nous t'en prions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyons ce que nous dit ce texte. Comme nous le faisons encore au début de nos cultes, Paul commence par louer le Seigneur Dieu en le remerciant pour les bienfaits ou bénédictions qu'il lui a accordés, ainsi qu'au destinataire de la lettre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. C'est ensuite le détail de toutes ces bénédictions, non pas matérielles, mais spirituelles, qu'il va rappeler à ses lecteurs. Et Paul va aller plus loin et dévoiler un mystère que nous allons découvrir. Dieu, dit-il, nous a choisis en Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Dans cette introduction, c'est un peu comme si Paul nous faisait pénétrer dans une machine à remonter le temps. Il nous projette dans l'infini de l'avant-création, avant le Big Bang, avant l'explosion primitive. Nous voici avant la fondation du monde, penchés par-dessus l'épaule de Dieu, en train de dessiner le plan de son projet de création. Dieu a tout prévu, vu d'avance. Car en fait, son regard divin balaye toute l'étendue du temps, lui qui est hors du temps, éternel, sans commencement ni fin. Il est l'éternel présent, comme l'exprime son nom révélé à Moïse, Yahvé, c'est-à-dire j'étais, je suis, je serai. Nous voici donc devant le projet de Dieu, son plan. Quel est-il? Le projet de Dieu nous est révélé dès les premières lignes de la Bible, dans ce livre qui s'appelle la Genèse, Bereshit en hébreu, c'est-à-dire au commencement. Au premier chapitre, verset 26, nous lisons. Dieu Elohim dit: faisons un homme à notre image, selon notre ressemblance. Voici donc le projet. Et puis vient sa réalisation. Toute la suite de la Bible va exposer la réalisation de ce projet énorme, faire un humain à l'image de Dieu. Mais quelle est l'image de Dieu? Dieu n'est-il pas invisible? N'est-il pas sans limite, hors du temps et de l'espace? Quelle peut bien être sa forme? Sa ressemblance. N'allons pas chercher dans les représentations artistiques, même dans les plus belles, comme celle du plafond de la chapelle Sixtine, où Michel-Ange nous a peint un Dieu créateur musculeux et barbu. Cherchons plutôt dans la Bible. Nous y trouvons une réponse. Dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, au chapitre 1, verset 15, Paul affirme que le Fils, Jésus le Christ, est l'image du Dieu invisible. Le premier chapitre de la lettre aux Hébreux, au verset 3, nous dit aussi qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus fut un homme, certes, mais plus qu'un homme. Il est la parfaite image de Dieu, il est l'incarnation du Créateur. Ainsi, le projet de Dieu, c'est-à-dire créer un humain à son image, c'est créer un humain à l'image de Jésus le Christ, un humain saint et irréprochable en amour, comme le précise Paul. Les premiers chapitres du livre de la Genèse vont nous décrire de façon imagée la mise en route de la réalisation de ce projet. Dieu Elohim nous dit, le verset 7 du second chapitre, « Crée l'humain, l'Adam, homme et femme, en le façonnant des éléments de la terre, le magnésium, calcium, potassium, fer, etc. Et puis il a soufflé sur lui et en a fait un être vivant. » Puis, le récit des événements du jardin de l'Éden nous montre symboliquement comment l'humain se détourne de la volonté de Dieu pour vivre sa vie terrestre selon ses propres conceptions du bien et du mal, loin du projet que Dieu avait pour lui. Dieu a alors laissé toute liberté à l'humanité. Et malheureusement, à bien des égards et tout au long de son histoire, elle n'a pas utilisé cette liberté pour accomplir le bien. Au contraire, où trouver la ressemblance de Dieu dans cette humanité? Même les plus honorables, les plus belles personnes ont leur part d'ombre et parfois aussi de méchanceté. L'homme n'a pas la capacité de changer sa nature défaillante, mortelle et limitée pour parvenir à la ressemblance de Dieu. Or, dès avant la fondation du monde, toute l'histoire de l'humanité était là devant les yeux du Créateur. Avant même qu'il engage son projet, le remède était déjà pourvu. Car ce que Dieu a projeté, ce qu'il a voulu, selon son bon plaisir, dit Paul, il l'accomplit. Il a prédestiné, c'est-à-dire destiné d'avance, l'humain à être semblable à lui. Il va faire ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Paul nous décrit au verset 7 et 8 cette œuvre de Dieu. En lui, donc en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voici comment Dieu accomplit son plan et rend les hommes saints et irréprochables devant lui en amour. Voici comment il les adopte comme des fils, en Christ. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour le salut des êtres humains, Dieu les délivre et pardonne leurs fautes. Il leur fait grâce. Il leur donne sagesse et intelligence. Tout est accompli. Et maintenant, à travers le Christ Jésus, par sa parole et son esprit, tous les hommes sont appelés à entrer dans le projet de Dieu à leur égard, ce dessein auquel ils ont été destinés d'avance, prédestinés avant la fondation du monde. Car depuis toujours, Dieu a un souhait, un désir immense, un désir à la dimension de l'infini, se créer un vis-à-vis, un compagnon à son image, un être avec qui il aura une relation d'amour et de confiance sans limite, un être qui l'aimera. Dieu veut aussi que cet être humain le loue. Paul répète à plusieurs reprises que Dieu nous a prédestinés et bénis pour la louange de sa gloire, pour qu'on loue sa gloire. Dans notre langage liturgique, dans nos cantiques, louer le Seigneur, c'est dire ou chanter notre admiration de la grandeur de Dieu, de la beauté de sa création, et plus encore, lui dire, lui chanter notre reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il fait. La vraie louange est l'élan d'un cœur reconnaissant, exprimant son amour pour le Seigneur. Et c'est ce qu'il attend. Il nous est aussi précisé, louer sa gloire. Ne dirions-nous pas que c'est là un souhait plutôt égocentrique? Vous avez peut-être en tête cette gloire recherchée depuis toujours par les hommes, depuis les chefs de guerre, les souverains de tous les temps, et aussi les artistes, les sportifs. Mais est-ce vraiment la gloire? Je n'ai ni le temps ni les compétences pour approfondir toute la signification de ce mot dans la pensée des auteurs des livres de la Bible. Mais j'en retiendrai une. La gloire dont nous parle ce passage, c'est la gloire qui exprime la personne même de Dieu, son être, sa présence lumineuse et son œuvre tout entière dans le monde et pour les êtres humains. Or, cette gloire s'est manifestée pour nous dans la personne de Jésus-Christ, dans ce qu'il fut, dans ce qu'il fit et ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est dans l'éternité de son être. Il le dit lui-même. Le Fils de l'homme, c'est ainsi qu'il se nomme, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Nous le lisons dans Jean chapitre 13, verset 31. Et l'Épître aux Hébreux affirmera que Jésus est le reflet de sa gloire. Au chapitre 1, verset 3. Ainsi, c'est pour la louange de Christ, qui personnifie sa gloire, que Dieu a formé ce dessein de toute éternité, afin que les humains, transformés à son image, devenus ses frères, le louent avec un cœur reconnaissant. Comment entrer dans cette destinée glorieuse? Comme l'ont fait les lecteurs de la lettre de Paul. En Christ, dit-il, vous avez entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui encore, vous avez cru, et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, qui est un acompte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession pour la louange de sa gloire. Parce qu'ils ont cru en Christ, ils sont entrés dans cette destinée que Dieu avait prévue pour eux, comme pour nous. Et Paul compare le Saint-Esprit que Dieu déversa sur eux à l'acompte d'un héritage. Cet héritage, c'est ce que Dieu a en réserve pour tout croyant, le salut. C'est-à-dire cette destinée qui s'accomplit au-delà de la vie terrestre, jusque dans l'éternité, sous le règne de Christ. J'ose dire que toute l'humanité est élue. Elle a été choisie parmi toutes les autres créatures vivantes. Tous les hommes sont appelés au salut, c'est-à-dire à cette merveilleuse destinée éternelle. La porte est ouverte en Jésus-Christ. Dans sa parole, l'Évangile, qui est bonne nouvelle, Jésus invite tous les hommes à renoncer à cette vie vécue loin de Dieu, à accueillir son amour et sa grâce avec reconnaissance et à se confier en lui pour leur destin. Il leur offre son salut. Et voici ce mystère qui a été révélé à Paul. Dieu nous offre le destin fabuleux d'être avec Christ, co-gestionnaire de l'univers, pour l'unique gloire de sa grâce. Dieu, dit-il, nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même, pour le mener à son accomplissement dans la suite des temps. C'est-à-dire de réunir l'univers tout entier en Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons été désignés héritiers, ayant été prédestinés selon le projet de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Malheureusement, tous les hommes n'accepteront pas cet héritage glorieux acheté pour eux à grand prix par le Seigneur Jésus. Dieu a tout accompli pour que cela soit possible, mais il leur laisse encore et toujours la liberté d'accepter ou non cette destinée, la liberté de s'y engager ou non. Qu'en est-il de vous, chers auditeurs? Vous vous dites peut-être, comme moi parfois, que cela vous dépasse, que c'est trop grand, trop profond, que l'administration de l'univers relève de la science-fiction. Mais pourquoi ne pas détacher votre regard de votre condition terrestre, si aléatoire, si incertaine et aussi parfois si décevante? Pourquoi ne pas croire que Dieu a un projet pour vous, un méga projet? Vous n'êtes pas une molécule insignifiante dans l'immensité de cette terre et même de cet univers. Vous êtes quelqu'un de précieux pour Dieu, individuellement. Quelle que soit votre condition actuelle, votre âge, votre situation ou vos capacités, Dieu a un merveilleux projet pour vous. Il n'est pas limité par la finitude de nos vies terrestres. Son plan pour chaque être humain va au-delà. Il nous aime tellement qu'il a accompli l'incroyable pour nous, pour que nous soyons ses compagnons d'éternité. Il est venu partager notre condition humaine dans la personne de Jésus-Christ. En Christ, il est venu mourir lui-même pour nous sauver de notre pauvre condition d'être mortel loin de lui, pour nous ouvrir la porte et nous accueillir dans cette destinée qu'il avait pour nous, avant même la fondation du monde. Une destinée éternelle avec lui. Ne pensez-vous pas que cela vaut vraiment la peine de s'en préoccuper et de s'en saisir? Pourquoi ne pas terminer ce moment de réflexion en élevant nos pensées et nos cœurs vers cet au-delà qu'est Dieu le Créateur. Notre Dieu, nous croyons que tu es notre Créateur et qu'en Christ, tu nous as aimés au-delà de tout pour que nous puissions t'appeler notre Père. Avant la fondation du monde, tu as voulu nous destiner à être à l'image de Christ notre Sauveur. Notre Père, que ta volonté soit faite dans la terre que nous sommes, comme au ciel que tu es. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin, spirituel et matériel, et œuvre en nous pour que nous soyons à la louange de ta gloire et de ta grâce, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Chers auditeurs, merci d'être restés en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions dont vous pouvez avoir besoin. Qu'il vous fasse du bien et vous accorde sa paix aujourd'hui et chaque jour de votre vie.
Ainsi s'achève ce service protestant avec Marie-Christine Perry, prédicatrice pour l'Église protestante unie de France en région parisienne. Merci à vous pour votre écoute. Merci à Clotilde Pivin pour la réalisation et à Pierre Monteil pour la prise de son. Le service protestant est proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France, présenté aujourd'hui par Olivier Betty. Retrouvez cette émission en téléchargement sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Si vous souhaitez recevoir le texte de ce dimanche matin, une adresse postale, Service Radio, Fédération protestante de France, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à 9h le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bon dimanche à tous et à chacun.